bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est Frédéric. Aujourd'hui, je suis dans les studios en compagnie de l'association Ligue des droits de l'homme, la section de Compiègne-Noyon. Bonjour mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Alors, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs, s'il vous plaît. On commence par la plus ancienne ou la plus jeune? Ah, je suis méchant de dire ça, hein, c'est pas sympa. Mais elles sont jeunes toutes les deux. Allez, on commence par Lucie peut-être.
Si vous voulez. Alors Lucie Samad, donc en effet membre de la section Compiègne-Noyon comme bénévole et depuis peu salariée de la Ligue des droits de l'homme pour étendre le projet dont on va parler aujourd'hui, qui est le concours de plaidoirie au niveau de notre région des Hauts-de-France.
Merci.
Moi c'est Salomé, donc j'ai 19 ans. Je fais actuellement un service civique avec la Ligue des droits de l'homme jusqu'au mois de juillet à peu près. Et voilà, je travaille avec Lucie et un autre service civique.
Voilà, on va rentrer dans le détail juste après. Je vais juste préciser deux, trois choses pour les auditeurs. Si vous voulez réagir à cette émission, nous avons le Facebook de RVM FM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Alors, je suis seul aujourd'hui pour faire l'émission. C'est pas grave, je suis bien accompagné dans le studio. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la Ligue des droits de l'homme. Présenter l'association, s'il vous plaît.
Oui. Alors, la Ligue des droits de l'homme, c'est une association nationale qui existe depuis 1898. Donc, c'est la première association de défense des droits de l'homme en France. Donc, on la surnomme souvent la vieille dame. Et en effet, elle a eu de nombreux combats qui se sont augmentés au fur et à mesure des périodes historiques. Et donc, on a vocation à être généraliste, c'est-à-dire à défendre les droits de tous, sans aucune discrimination, donc des femmes, des personnes handicapées, des personnes homosexuelles, des migrants. Et donc, on est répartis en sections dans les villes qui sont aussi autonomes et qui peuvent faire leurs propres actions et leurs propres projets. Et en particulier, dans la section de Compiègne-Noyon, on est très mobilisés sur les interventions en milieu scolaire, les permanences d'accès aux droits et l'aide aussi aux dossiers de migrants, de personnes étrangères. On fait partie de collectifs d'aide aux migrants, de collectifs de défense des droits des femmes aussi, notamment à Noyon où on est très impliqué et avec un collectif assez récent mais très mobilisé sur les dates clés du 8 mars et du 25 novembre. Donc voilà, on a des activités bien chargées dans la section.
Et qu'est-ce qui vous a séduit, vous, Lucie, là, dans cette association-là ?
Alors, moi, j'avais un parcours juridique. J'ai fait du droit et ça m'intéressait déjà le côté défense des droits de l'homme, le droit humanitaire. Et j'ai fait un master en fait en droit de l'homme et en droit humanitaire que j'ai validé à Évry après mes quatre premières années à Amiens. Et donc rapidement, quand je suis sortie, je voulais faire du bénévolat et je m'étais orientée vers plusieurs associations. Et j'ai vraiment trouvé ma place au sein de la LDH où j'ai été très bien accueillie et où ça me rapprochait vraiment du fond de mes études. Déjà, et puis de ce que je voulais faire, promouvoir la défense des droits au public. Et puis après, on a été sensibilisés, et moi, ça m'a vraiment intéressée de le faire, notamment auprès des jeunes, avec qui je pense qu'il est important de débattre, de discuter, et surtout avec qui on peut encore aussi débattre et discuter, et où on se sent utile, en fait.
En plus, on arrive en période présidentielle, là, tout ça. Est-ce qu'il y a des messages à passer à nos futurs dirigeants?
Il y en a tellement.
Oui, c'est ça.
C'est vrai que c'est un peu redondant. Hein. C'est souvent un peu les mêmes. Hein. On veut plus de démocratie, moins de violence. On en parlait tout à l'heure. La période actuelle n'est pas vraiment propice à justement ces demandes. Mais oui, plus de liens sociaux, qu'on puisse plus dialoguer. On voit le conflit avec les forces de l'ordre, avec les politiques, le désamour des gens de la politique qui vont sans doute encore une fois pas aller beaucoup voter. On trouve que c'est quand même important de se mobiliser, d'aller voter. Parce que malgré tout, ça nous permet de continuer à pouvoir nous exprimer et justement peut-être montrer qu'on n'est pas en accord avec ce qui se passe actuellement. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on voit aussi le spectre politique qu'on a devant nous et les choix qu'on a. voilà, avec quand même des courants d'extrême droite qui sont très forts et qui propagent des valeurs qui sont forcément à l'opposé des nôtres,
oui.
Bien évidemment.
En plus, on a une guerre pas très loin de chez nous, donc les droits de l'homme en ce moment sont bafoués, on peut dire. Hein.
Tout à fait, et on trouve important de nous aussi de rappeler au sein de la LDH qu'on n'aime pas forcément le deux poids deux mesures qui se passe. Alors on est très content qu'on ouvre un peu notre pays, qu'on accueille les réfugiés ukrainiens, c'est ce qu'on demande aussi de toute façon. Mais on est un peu dans l'incompréhension sur le fait qu'il y a un traitement différencié avec des migrants qui, objectivement, viendraient d'Afrique, d'Asie. Et donc, on sent une forme de racialisation de l'être humain. Et il y en aurait qui auraient peut-être plus d'importance que d'autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc, où on se mobilise aussi pour rappeler très bien l'ouverture aux migrants. Nous, on le veut pour tous, sans distinction, puisqu'on est universel à l'ALDH. Donc, on prône ça, en fait. Hein.
Oui, il y a personne qui a plus de droits que d'autres. Quoi, hein.
Non, les pays en guerre, il y a le droit d'asile qui existe. C'est fait pour ça, pour protéger les gens qui quittent leur pays. Mais malheureusement, il n'y a pas qu'une guerre en Ukraine, il y a aussi d'autres guerres ailleurs.
Oui.
C'est vrai qu'on se sent peut-être plus concerné pour certains parce que c'est très proche de chez nous, c'est l'Europe. Mais ça n'empêche pas que c'est moins grave parce que ça se passe un tout petit peu plus loin.
Oui. Et donc, j'ai noté donc 1898.
Oui, donc, affaire Dreyfus.
Ouais, les droits des femmes n'étaient pas encore bien développés à cette époque-là.
Non, et puis on peut en rire, hein, c'est le reproche qu'on pourra faire aussi à la LDH qui s'appelle Ligue des droits de l'homme. Il y a un débat au sein de la LDH justement pour peut-être faire évoluer le nom de l'association, qui, on le rappelle, pour la LDH veut quand même dire H en comprenant hommes et femmes, et elle fait partie, c'est toujours bon à rappeler, des associations qui ont quasiment dès le début de sa création eu des femmes dans le comité central, qui pour l'époque était quand même une belle avancée. Donc oui, on s'est mobilisé après sur les nombreux droits des femmes, le droit de vote, l'IVG, l'avortement, tous ces combats qu'il y a eu. La LDH a toujours été partie prenante et force de proposition.
Très bien. Et donc, différentes sections. Donc là, vous...
Oui.
Donc Lucie, on va se tutoyer maintenant. Hein. Tu viens de Compiègne-Noyon.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a d'autres sections. On avait reçu une section de Soissons, je crois, de
Tout
l'Aisne.
À fait.
Voilà. Donc, ça représente combien de sections dans l'Oise?
Alors, dans l'Oise, trois seulement.
Trois, d'accord.
Compiègne-Noyon, Creil-Sud-Oise et Beauvais. Et puis après, chaque département en a. Et on est regroupé aussi en comité régional. Donc, des fois, on se retrouve entre nous sur Bapaume ou peu importe, avec les sections au niveau des Hauts-de-France.
Voilà. Donc, j'ai même vu ça pour les concours de plaidoirie. Maintenant, il y a un regroupement avec les Hauts-de-France. Hein,
c'est ça. Pour bien étendre le projet.
Voilà. Et bien, maintenant, on va donner la parole à Salomé.
Oui.
Parce qu'elle trépine d'impatience. Je vois qu'elle est pressée de se présenter. Allez, Salomé, qui es-tu? Eh bien, écoute, tu es donc un service civique, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui.
Mais avant, qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver dans ce service physique? C'est quoi ton parcours, Salomé?
Du coup, j'étais au lycée pendant 3 ans à Noyon, au lycée Jean Calvin. Et après, j'ai commencé la fac à Lille, mais ça ne me plaisait vraiment pas. Donc, j'ai décidé d'arrêter au mois de janvier 2022. Et ensuite, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui pouvait m'apporter un plus avant de retourner faire mes études. Donc, j'ai appris que la Ligue des droits de l'homme cherchait un service civique. Et je me suis présentée, et voilà, surtout que j'avais déjà, du coup, je les avais déjà rencontrés par rapport au projet des plaidoiries, vu que je l'ai fait en terminale. Donc voilà. Comme ça que j'ai pu les contacter.
Et la Ligue des droits de l'homme, pour toi, ça représente quelque chose? C'est une association que tu avais découvert donc avant par les plaidoiries, bien sûr. Mais est-ce que c'est des sujets qui te touchent fonctionne l'association?
Oui, complètement. Bah, c'est vrai qu'avant le concours des plaidoiries, je ne connaissais pas l'association, honnêtement, mais c'est vrai qu'on a appris à la connaître en faisant nos plaidoiries. On a dû faire des recherches sur la Ligue des droits de l'homme, sur les articles et tout ça. Mais franchement, oui, je savais tellement tous les thèmes me touchaient, je ne savais pas lequel choisir. Pour moi, tous étaient importants et tous a le droit. Enfin, on devait tous s'exprimer sur tous les sujets, en fait. Donc, c'était compliqué d'en choisir un. Mais c'est vrai que, bon, étant une femme, j'avais vraiment envie de choisir un thème sur le droit des femmes. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je choisisse ça, en tout cas. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi l'année dernière le droit à l'avortement.
Donc, c'est un sujet que la Ligue des droits de l'homme gère aussi, bien sûr.
Oui.
Donc, tu étais vraiment dans l'actualité, là. Hein.
Oui, c'est vraiment un sujet toujours d'actualité. Et justement, les lois changent sans cesse. Des fois, elles régressent. Des fois, elles avancent, justement. Et c'est pour ça. On devait tout le temps changer notre sujet parce que, justement, les lois changent tout le temps. Mais c'est, malheureusement, c'est toujours d'actualité et on en parlera toujours. Donc, voilà.
Ouais. Et un service civique, ça consiste en quoi, alors, du coup, Lucie? Alors, c'est quoi un service civique? Les besoins que vous aviez pour votre association?
Alors, c'est surtout, c'est vraiment quelque chose de réciproque dans le service civique. Elles ont un tuteur et on doit vraiment les accompagner et les former dans un apprentissage d'accompagnement avec nous et donc être très pédagogue. C'est quand même le but, qu'elles puissent en retirer quelque chose pour leur parcours professionnel d'après et qu'on puisse aussi les accompagner sur le après aussi. Là, concrètement, elles sont d'un réel soutien sur l'extension de ce projet. Elles m'accompagnent en classe. Elles viennent participer aussi aux interventions avec les élèves. C'est vrai que Salomé, elle peut apporter son discours d'ancienne participante qui l'a vécu. Elle a passé les étapes en classe. Elle a été finaliste. Donc voilà, il y a eu cette progression. Elle peut donner des conseils. Et c'est vrai que ça va parler aux jeunes puisqu'elle a juste un an de plus qu'eux pour la plupart. Et puis après c'est tout le côté aussi organisation parce qu'on fait des finales vu que c'est des concours, donc la recherche de l'eau, l'organisation, la constitution des membres du jury, enfin voilà, presque comme si on faisait plein de petits événements et quelques gros événements, et donc c'est dans toute cette un peu logistique qu'elle nous accompagne, mais le but c'est aussi qu'elle puisse avoir un apprentissage sur les thèmes de la LDH qui sont autour des droits de l'homme par ce concours de plaidoirie, mais pas que, mais ça prend une grosse partie du temps de travail quand même.
Oui. C'est un contrat de combien de temps, du coup, Salomé?
De 6 mois.
6 mois, ok. Et donc, après, tu vas te projeter par rapport à cette expérience-là? Ça va t'aider à trouver ton orientation pour ton avenir?
Franchement, je pense que ça peut que m'aider parce que... Bien sûr, on organise le concours des plaidoiries, mais à côté de ça, on fait aussi, par exemple, la communication de la Ligue des droits de l'homme sur les réseaux sociaux, tout ça. Et du coup, Lucie m'a chargée de faire des petits films, des choses comme ça à mettre sur les réseaux sociaux.
C'est une grosse responsabilité,
voilà.
Alors.
Oui. Mm-hmm. Et comme c'est ce que je veux faire l'année prochaine, ça peut que m'apporter et je le mettrai donc dans mon dossier. Et voilà, j'espère que ça va m'aider.
Bien sûr, ça te fera un CV bien rempli.
Voilà.
Hein, parce que...
C'est plein d'expériences qu'on acquiert aussi en plus. Et le service civique, c'est aussi cette opportunité d'acquérir de l'expérience tout en ne tombant pas dans le piège aussi, comme on peut faire de reproches à des stagiaires qu'on emploierait comme des salariés et qu'on surexploiterait. Ça serait quand même dommage que la LDH tombe dans ce panneau. Donc on essaye vraiment d'être plutôt un accompagnant et d'être dans la pédagogie. Ça passe assez vite, hein. Elles ont 6 ou 7 mois en général.
Ouais, c'est vrai que ça passe vite, hein, quand même.
Et elles sont souvent dans le feu de l'action parce que c'est les périodes très charnières des plaidoiries jusqu'au final qui sont en mai. Donc ça sera une petite soupape de sur la fin en juin et juillet, mais jusqu'à là, elles vont être bien occupées.
Voilà, et en plus, une première expérience à la radio, Salomé.
Oui.
C'est la première fois que tu te mets devant un micro, alors.
Oui, totalement. Donc,
quand tu as fait la finale des plaidoiries, tu parlais quand même devant un public.
C'est vrai.
Donc ça devait être un peu impressionnant quand même, ça.
Oui, surtout que c'était devant plein de gens.
Ouais.
Là, c'est différent, mais c'est quand même stressant. Même s'il y a moins de gens autour.
On va se décontracter, voilà. Et là, il n'y a personne autour de nous, on est tranquille, voilà. Donc on va rentrer dans le sujet, donc les plaidoiries. On peut savoir ce que c'est une plaidoirie déjà, Lucie, expliquer aux gens.
Oui.
Qu'est-ce que c'est une plaidoirie?
Alors une plaidoirie, c'est quelque chose d'oral déjà. Ils vont travailler sur une base écrite, mais qu'il va falloir nous rendre assez dynamique, que ça soit, on ne tombe pas dans le cliché de l'exposer, donc c'est quelque chose de beaucoup plus fluide sur un droit de l'homme qui est bafoué en France ou dans le monde. On leur laisse vraiment la liberté de choix, ça nous semble vraiment important pour qu'ils puissent vraiment bien s'impliquer, que ça soit quelque chose qui les touche. Et puis après, voilà, c'est un déroulé sur ce droit-là, on vient vous dire pourquoi il est bafoué, pourquoi il n'est pas respecté. Qu'est-ce qu'on en pense, nous, en fait, vraiment le sentiment personnel de l'élève, ce qui est rare. Au niveau de l'éducation nationale, on demande plutôt la neutralité des profs, la neutralité dans les cours, et les élèves n'ont pas forcément de possibilité d'exprimer leur opinion. Là, c'est tout l'inverse. On veut leur opinion, au contraire. Donc, le droit, il est bafoué. Pourquoi? Comment? Avec des chiffres, des textes de loi, après, pour dire, en fait, nous, on vient vous en parler pour faire améliorer les choses. On a des revendications à faire. Alors, des fois, ils vont s'adresser justement aux politiques qui vont peut-être pouvoir faire changer les choses, les députés ou les sénateurs par les lois, ou le président de la République par des annonces, ou on ne sait pas. Bon, c'est sans doute utopique, mais on s'adresse à quelqu'un, en fait. Mmh. On a des questions à poser, on interpelle son public et on essaie de faire réveiller les consciences. C'est ce qu'on fait, nous, au quotidien à la LDH, et on estime que par une plaidoirie, surtout les élèves peuvent encore plus impacter dans le public. Il y aura des politiques, il y aura des élus, et souvent, ils sont impressionnés du discours des jeunes. Et c'est ça, la plaidoirie, c'est on va garder en tête ce que vous avez dit, vous venez dénoncer quelque chose, et après, en plus, à la fin, vous venez essayer d'apporter des solutions. Nous, en tant que jeunes, on pense qu'il serait possible de faire ça, de mettre plus de moyens là, de mieux communiquer, de former dès l'enfance, qu'à l'école, il y ait plus d'outils de communication, qu'il y ait des affiches sur les numéros à appeler, qu'on soit un peu plus au courant. Et en fait, souvent, ce qui ressort, c'est que les jeunes, en travaillant sur un sujet qui leur plaît, vraiment, eux-mêmes apprennent des choses. Mmh. Et du coup, vu qu'ils vont passer en classe, malgré tout, ils vont apprendre aussi des choses aux élèves. Donc, il y a vraiment le côté informatif. Ils doivent partir du principe que celui-là qui va les écouter ne connaît rien au sujet. Donc, il faut être quand même très fluide, très clair. Et puis, bah, après, impactant. Donc, ça va être travailler sa voix, les intonations, les effets de manche, les répétitions. Des fois, c'est un peu de la dramaturgie aussi. Ça peut être un peu dans l'excès ou ça peut être, à l'inverse, très intimiste. Travailler le souffle. Il y a presque un côté un peu comme acteur de théâtre. Et dans certains établissements, d'ailleurs, ils travaillent des fois avec des gens issus du monde du théâtre.
Ah oui, ça aide. Ouais.
Bah, ça donne des petites astuces aussi pour... Bah là, par exemple, on peut s'arrêter 3 secondes et on reprend. Ça donne un souffle, ça donne une dynamique. Et ça, c'est le moins évident pour eux, hein, parce qu'ils ne sont pas outillés, mais ça, comme beaucoup de gens... Et puis bah après, le côté impressionnant de parler devant beaucoup de monde, ça peut stresser. Et on sait que quand on stresse, on peut perdre ses moyens. Mais jusqu'à là, on n'a jamais eu de gros loupés. Donc, ça veut dire aussi qu'ils avaient bien bossé et qu'ils connaissaient bien leur sujet. Et c'est vraiment très impressionnant.
Alors, ça a commencé quand, ces concours de plaidoirie, alors ?
Alors, nous, dans l'Oise, ça a commencé à Noyon, il y a 6 ans. Au niveau des Hauts-de-France, il y avait la section de Crotoy qui avait dû le faire 1 ou 2 ans avant nous. Et puis, en fait, ça avait été plutôt initié, de ce qu'on sait, par la Normandie, des sections en Haute-Normandie. Et en fait, nous, on avait vu un petit film, parce qu'ils font comme nous, en fait, ils gardent une trace de ces concours. Et nous, on venait de se créer à Noyon, donc il y a 7 ans maintenant. Et on avait vraiment été impressionnés par ce projet. On s'était dit, ah, ça tombe bien, nous, on voulait faire des trucs avec les jeunes. Et ça nous paraît vraiment le projet clé en main qu'on peut proposer aux profs en cours de MC, d'engagement moral et civique. Ça rentre totalement. Et en fait, ça a matché. Et on a lancé ça à Noyon d'abord pendant 2 ans. Et après, on l'a étendu il y a 4 ans maintenant à Compiègne en tant que bénévole. Et là, du coup, on lui donne une propension autre avec mon poste salarié depuis septembre, depuis la rentrée dernière, pour vraiment l'étendre. Et on a réussi une belle extension, notamment dans l'Oise. Mais le but, ça va être de l'étendre largement aussi au niveau de notre région des Hauts-de-France.
Voilà. Donc, ça s'adresse qu'au lycée pour l'instant ?
Alors, cette année, on tente l'expérimentation au sein de notre région, aussi au collège, au 3e et 4e.
Voilà, les plus jeunes, alors, d'accord.
C'est ça. Et là, on en a à Villers-Saint-Paul, à Méru et à Montaterre, déjà pour cette année.
Comment c'est présenté donc, au lycée ? Comment vous communiquez sur votre proposition de ce concours ?
Alors, maintenant qu'on a le réseau aussi des profs, des fois, ça peut passer par contact.
Ah oui, ça passe
contact.
Par les profs, d'accord.
Par exemple, à Crépy, c'est grâce à une prof de Compiègne qui avait une amie, en fait, à Crépy, à qui elle en a parlé. Et puis, cette prof de Crépy en a parlé à quelques collègues et elle a réussi à convaincre une autre prof. Donc, cette année, à Crépy, on a 2 classes avec 2 professeurs qui sont engagés. Et on espère que, du coup, avec le projet de cette année, ça donnera envie l'année prochaine à d'autres de le faire. Sinon, après, on passe par les structures aussi officielles, hein, l'académie. On envoie l'académie qui transfère à tout le monde. Mais ça passe beaucoup par le contact à oreille, le bouche à oreille. Pardon.
Justement, c'est l'émission qu'on fait en ce moment. Donc,
ça tombe bien, on est dedans. Du coup, ça m'a perturbée.
Et ben voilà.
Et ça passe. En fait, c'est quand même l'idéal pour réussir à s'implanter parce qu'il y avait d'autres sections, Creil et Beauvais, qui avaient envie de le faire justement. Et jusqu'à là, on n'arrivait pas forcément à trouver les contacts quand ça passait par le haut, on va dire, la direction. Et c'est vraiment, on se rend compte que ça fonctionne quand on peut connaître un prof qui est dedans et qui va lancer le projet. Donc, c'est vraiment au plus près des professeurs et du terrain qu'on a réussi vraiment à implanter ce projet. Et aussi, quand même, l'académie est là avec le réseau Canopée à Beauvais, qui ont lancé un projet qui s'appelle les Chemins de l'éloquence, avec lequel on est partenaire. Donc, il y a des réunions de copiles On a rencontré d'autres structures, on a pu le lancer à la cité éducative de Montataire, et voilà, à d'autres endroits, Méru notamment, donc le réseau fonctionne.
Oui. Et donc, Salomé, pour vous, comment ça s'est passé? Comment on vous a présenté ce concours d'élocution? Comment ça s'est passé?
Alors, du coup, moi, je l'ai déjà fait en seconde. Donc, on était venu me présenter donc avec deux ligueurs de la Ligue des droits de l'homme. Et ils étaient venus donc nous montrer un film. Ils nous ont posé des questions par rapport aux droits de l'homme pour un peu tester nos connaissances. Et donc voilà, c'était un peu une présentation de la Ligue des droits de l'homme. Je sais qu'en seconde, on avait aussi vu des plaidoiries des anciennes années avec notre professeur pour voir un peu comment ça se passait, tout ça. Donc voilà, et puis l'année dernière, on est venu aussi nous présenter comme ça, exactement pareil, et puis voilà.
Voilà, donc du coup, tu étais plus à l'aise à l'écriture ou à l'oral pour toi, Salomé?
L'écriture, largement.
L'écriture, ouais.
Oui.
Donc le texte t'est venu facilement alors, peut-être?
C'est vrai qu'au début, c'est compliqué de... Enfin, on sait pas comment commencer, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et on a envie de trouver une bonne accroche. Donc c'est compliqué de commencer, mais au début, on fait des recherches, voilà, des chiffres, des témoignages, etc. Et à force... On se met encore plus dans le thème et on est vraiment, on se sent vraiment concerné par le droit qu'on est en train de défendre. Donc du coup, les phrases nous viennent petit à petit en fonction de ce qu'on trouve sur Internet, des informations qu'on arrive à avoir. Et puis après, ouais, ça vient tout seul. Franchement, on est vraiment dedans au fur et à mesure.
Alors, c'est quelque chose que vous faites pendant les cours ou c'est à l'extérieur? Comment ça se passe?
Alors, non, c'est pendant les cours.
Pendant les cours,
oui,
d'accord.
C'est du coup pendant notre cours de MC avec notre professeur d'histoire-géographie. Donc, on a à peu près une heure toutes les deux semaines, donc c'est pas beaucoup. Mais après, donc on doit quand même travailler chez nous.
Oui.
Et c'est compliqué quand on est en binôme parce que du coup, on peut pas toujours voir la personne avec qui on travaille, mais... J'avoue que moi, je l'avais fait avec une amie, donc on a pu se voir souvent et on a pu travailler au lycée aussi, bien avancer ensemble. Donc voilà, comment ça se passe.
Ils vous mettent en binôme, d'accord, ok.
En fait, on peut être de 1, on peut être 2 ou 3 maximum.
Ok, ça aide justement pour trouver les idées, pour écrire le texte et tout ça.
Oui, oui.
Et après, l'oralité, c'est chacun son tour. Alors, comment ça se passe?
Alors,
vous faites un test dans les écoles déjà avant de vous présenter au concours?
Oui, normalement, on doit passer devant notre prof. Moi, je crois que cette année, je ne l'ai pas fait. Je suis directement passée devant les personnes.
À la pression tout de suite, alors.
Oui, tout de suite. Avec le Covid, c'était compliqué de
oui,
prévoir.
Ah oui, c'est vrai. Que...
Ouais. Donc, du coup, on est passé directement devant la Ligue des droits de l'homme. Mais on s'était quand même bien entraîné à l'extérieur du lycée avec mon ami. Donc,
oui, donc
ça nous a aidé quand même. Puis, comme on l'avait fait en seconde, on savait un petit peu à quoi s'attendre aussi.
D'accord.
Donc, voilà.
Donc Lucie, ton rôle dans son concours de plaidoirie, quel est ton rôle alors?
Alors, d'intervenir en établissement scolaire. D'accord. Avec les bénévoles des sections locales le plus possible. Alors, les forces humaines, ça, c'est toujours ce qui manque. Hein, donc, on lance aussi l'appel à des potentiels bénévoles qui voudraient nous rejoindre et qui seraient intéressés pour faire ce genre de projet qui, pour le coup, est très concret. Et là, on va sur le terrain, parce que des fois, c'est ça qui rebute certains, c'est qu'on fait toujours des choses, des beaux communiqués de presse. Et on manque de terrain. Là, pour le coup, avec ce projet, on est sur le terrain et on serait bien en demande de soutien supplémentaire. Mais voilà, c'est ma mission d'aller sur le terrain dans les classes et puis après d'organiser aussi un peu toutes ces finales et de coordonner entre tout ça pour faire une finale départementale, pour faire une finale régionale. Aller chercher les sous aussi, faire les demandes de subventions. Malheureusement, il faut y passer. Et puis, la communication avec les filles qui m'aident maintenant. Mais voilà, tout le côté aussi, des fois, un peu moins sympathique du bénévolat et de l'action, en tout cas, associative, à faire pour que le projet se pérennise. Et c'est aussi beaucoup de rencontres avec les municipalités, avec les partenaires et les soutiens économiques, institutionnels, pour présenter à chaque fois le projet quand on l'installe dans une ville. Donc là, on avait été rencontrer la mairie, la communauté de communes de Crépy, qui toutes les deux nous soutiennent dès cette première année, pour présenter aussi le projet qu'on instaure dans leur ville, en fait. Et puis pour avoir après un soutien sur la communication, peut-être financé dans les années à venir aussi, plus importants en fonction des classes qui vont grandir, on l'espère. Mais voilà, c'est un petit peu tout ça.
Donc oui, c'est important. Donc c'est un sacré boulot. On ne se rend pas compte comme ça, mais voilà. Le bénévolat, hein, c'est, comme dirait un ami à nous, c'est un couillon qui se respecte. Voilà.
C'est joliment dit.
Oui, c'est salut Gontran, c'est lui qui nous sortait cette phrase à chaque fois à l'antenne. Je vous propose votre pause musicale.
Oui.
Hein, pour les auditeurs et pour nous, pour poser nos oreilles tranquillement. Et on se retrouve juste après.
D'accord, merci.
Allez, à tout de suite les auditeurs.
I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, death is around the corner. 7 misleading statements about my persona. 6 headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqua. That's fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me like yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah, open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom rot in hell. Hey, I'ma keep on running 'cause the winner don't quit on themselves.
What you want from me? Is it true? You see, I'll finally get in there.
Nous venons d'écouter Freedom de Beyoncé. Voilà, c'était le choix musical de la Ligue des droits de l'homme, donc la section Compiègne-Noyon, le choix de Lucie et de Salomé. Donc je vous rappelle que vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit aujourd'hui la Ligue des droits de l'homme et nous allons parler d'un concours de plaidoirie. Ou même des plaidoiries, parce que c'est au pluriel, hein, il y en a plusieurs, voilà. Et je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, vous avez le Facebook de RVM FM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Nous transmettrons vos questions à la Ligue des droits de l'homme. Alors, retour avec vous, mesdames, après cette pause musicale. Donc, on a bien compris que ce concours vient sur Crépy-en-Valois, donc au lycée Monet.
Tout à fait.
Donc, c'est une première à Crépy, hein ?
Oui, c'est pour cette rentrée scolaire de septembre 2021 qu'on a pu instaurer ce concours dans deux classes, une classe de seconde et une classe de première du lycée Jean Monet, avec des professeurs qui accompagnent les élèves, comme vous l'a dit Salomé, en cours d'EMC. Et qu'on vient...
Donc, EMC, on rappelle ce que c'est, EMC ?
EMC, Engagement Moral et Civique.
Voilà, comme ça, on est clair.
Un peu autour de cours de citoyenneté. Donc, ce programme-là rentrait parfaitement dans ce que voulaient faire ces deux professeurs et puis bien d'autres dans d'autres lycées. Voilà.
Donc, l'objectif, c'est ils ont jusqu'à quand, là, pour préparer leur concours ?
Alors, du coup, leur finale de lycée est le 5 mai. À la salle des fêtes.
Ça arrive bientôt, oui.
Et donc, ils doivent faire des petites finales dans chacune de leurs classes, un petit peu avant, pour que dans chaque classe, émergent les trois meilleurs, pour faire cette finale le 5 mai avec les six meilleurs.
Donc là, ils seront où la finale, ça sera sur Crépy-en-Valois ?
Oui, à la salle des fêtes que nous met à disposition la municipalité.
Très bien. Et donc là, vous venez, vous, la Ligue des droits de l'homme, avec un jury, c'est ça ?
C'est ça.
Qui est composé de combien de personnes, le jury ?
Il est en cours de constitution. D'accord. Et il sera entre 5 à 8 personnes à peu près.
Et donc, Lucie, pas dans le jury ou dans le jury ?
Moi, non.
Oui, d'accord.
Non, je suis partie prenante, je suis passée les voir beaucoup en classe, j'aurais donné des conseils, je les ai vraiment beaucoup suivis. Il y a des classes qu'on peut un peu suivre moins, par exemple dans les Hauts-de-France où je suis un petit peu plus loin, à qui je délègue plus, où c'est possible. Mais là, on laisse, il y aura un ligueur, mais d'une section, peut-être qu'il ne connaît pas, pour être vraiment le plus objectif possible.
Voilà. Donc tu seras dans l'animation alors plutôt.
Voilà, tout à fait.
Salomé, ton rôle, ça va être quoi alors ?
Moi, je vais participer à la mise en place de la finale. On va mettre une table avec plein de prospectus pour que les gens puissent repartir avec, c'est important. Donc voilà, après aussi, il y a les diplômes à remettre à la fin, donc il faut mettre les noms des élèves. Il y a aussi... les trophées à remettre.
Ah oui, donc il y a quand même des récompenses alors.
Oui, il y a des récompenses.
On n'en a pas parlé encore. Oui,
quand même.
Donc il y a une certaine motivation pour participer à ce concours.
Oui, alors on n'a pas énormément communiqué dessus parce que pour nous, ce n'est pas non plus la carotte. Et puis, ce n'est pas des gros lots, c'est plutôt prestigieux. On a un diplôme, on devient ambassadeur des droits et ambassadrice des droits. Donc c'est valorisant. On peut mettre sur le CV. Donc ça peut être un petit plus. Et puis un trophée pour le premier, c'est aussi symbolique, mais on repart avec et ça fait un souvenir de dire qu'on a gagné ce concours. Donc après, voilà, c'est des livres, ça peut être selon les contacts qu'on a, des places de cinéma, des places de piscine. Voilà, c'est plutôt dans la symbolique, on va dire.
Ouais, mais c'est bien dans un CV.
Mais c'est important,
quand même. Voilà,
c'est important, bien sûr, c'est valorisant.
Quand tu fais ton CV, tu dis, j'ai participé à un concours des plaidoiries et j'ai été finaliste, donc déjà tout de suite, comme Salomé a été finaliste.
Tout à fait.
C'est toujours un plus. Hein.
Et puis, comme on le dit tout à l'heure, du coup, dans ces six qui passeront à la finale du 5 mai, le meilleur ira à une étape suivante et à un échelon supérieur. Qui est une première aussi, une finale départementale, du coup, au niveau de l'Oise, qui se passera le 25 mai au Château des Rochers, à Nogent.
Donc ça, c'est la première étape au-dessus. Et après, il y a encore plus haut, alors.
Et après, du coup, nos 4 ou 5 premiers, donc potentiellement peut-être celui-là de Crépy, iront à la finale régionale le 30 mai au Palais Fervaques à Saint-Quentin.
Purée.
Et puis dans quelques années, on parlera du niveau national.
C'est ce que j'allais dire. Oui, je pense qu'après, il y aura peut-être une finale
nationale. La stratosphère, après, je ne sais pas.
La pression, elle monte énormément. Après,
Mais on va y aller progressivement parce que ça fait déjà beaucoup de travail. Et si on veut garder du temps aussi à accorder aux élèves, ce qui me semble être fondamentale, parce que sinon c'est qu'un projet de l'éducation nationale avec le prof. Moi, je tiens beaucoup à ce que la Ligue, on reste très impliqué, qu'on passe beaucoup en classe aussi, donner nos conseils, nos avis. Donc, c'est vrai que plus on se multiplie, plus on a moins de temps pour chacun. Donc, il faudra trouver un équilibre qui est en cours.
Oui.
Voilà.
Et donc, sur Crépy, tu vas passer combien de fois, Lucie, alors du coup, rencontrer les classes?
Alors, on est déjà passé au début à la rentrée. Et là, on est en cours, justement, en ce moment, en train de repasser pour les voir.
Voir un peu l'évolution de leur texte, comment ça se présente et tout.
On y était ce matin, on y retourne cet après-midi. Et on y était il y a 10 jours ou 15 jours dans l'autre classe. Le but, c'est qu'on puisse tous les voir au moins une fois. Et donc là, ils ont un écrit plutôt bien construit. Ils passent à l'oral. Et donc, c'est vraiment l'étape importante où on peut leur donner des consignes. Pour ce qui est le plus dur, au final, pour eux, c'est de passer de l'exposé à la plaidoirie avec des petites billes qu'on a acquis aussi avec notre expérience de ce qui fonctionnait, de ce qui marche. Et mais déjà, ce matin, c'était très prometteur avec des beaux sujets. Certains pas courants. Déjà bien dans le timing demandé, donc avec des bons points, il manque pas grand chose, un peu s'ouvrir et avoir un peu moins de timidité, mais ça c'est toujours plus facile à dire qu'à faire.
Et le temps imparti, c'est combien de temps alors pour une plaidoirie?
Pour les lycéens, c'est entre 6 à 8 minutes.
Oui, donc ça laisse le temps de développer quand même.
C'est ça, c'est le but.
Ses idées et puis de voilà. Ouais.
C'est le but. On recherche pas, c'est pas que un simple concours d'éloquence où ça va être beaucoup dans la forme et dans la prestance et dans l'éloquence vocale. Là, on leur demande, nous aussi, c'est l'intérêt de notre association, de défendre quelque chose. Donc, il faut que le fond soit aussi important que la forme. Et en fait, celui-là qui va gagner, c'est celui-là qui aura les deux. Parce que des fois, on va avoir des bonnes plaidoiries sur le fond, mais à l'oral, ça va encore manquer un peu. Et à l'inverse, des fois, l'oral, ils sont super à l'aise, les jeunes, mais c'est un peu timide sur le fond. Donc, ceux qui vont se démarquer, c'est ceux qui vont avoir le match parfait entre les deux et qui vont...
Oui, puis après, le jury, il sera peut-être plus touché par une personne qu'une autre, par un texte, voilà.
C'est ça.
Donc, il y a l'éloquence, il y a plein de choses, il y a le choix de
l'originalité du sujet.
De la thématique, voilà,
ouais. Oui, c'est ça.
Et puis, c'est pas évident, hein, quand même, de parler devant un jury.
Non,
hein,
pas du tout.
Donc, c'est pas facile du tout.
Non, je pense qu'à la fin, du coup, ils ressortent souvent, je pense que Salomé pourra justement le dire, ils ressortent quand même soulagés, déjà, première fois. C'est important.
Ah, ça y est, c'est fait. Ouf.
Voilà, mais aussi quand même très fiers d'eux parce que, en fait, la plupart sont timides. Ou en tout cas, même si on n'est pas timide, personne n'est vraiment très à l'aise de passer à l'oral devant 100, 200. Ou alors là, ça va être des fois 300, 400. Même un adulte.
Oui.
Moi, je me souviens de mes premières fois. Juste dans l'animation, on m'a parlé devant 400 personnes, j'avais buggé aussi, et du coup, je leur dis souvent ça pour les...
Ça les rassure.
Voilà, ouais. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'âge. Ouais. Et au contraire, je pense qu'il y a des adultes qui seraient peut-être incapables de faire ce qu'ils font.
Oui, et puis après, ça, on peut le comprendre, qu'il y a des fois des petites hésitations, tout ça, c'est
normal. Oui, c'est pas très grave.
Non.
Franchement, là où ils vont être bons, on leur dit toujours, s'il y a un bug, c'est pas grave, mais on se... déstresse, on se calme, on reprend et on rebondit tout de suite. Et là, au contraire, ça peut encore plus impressionner parce qu'on va dire, il s'est pas déstabilisé ou elle s'est pas déstabilisée et elle a eu un accrochage, mais enfin, ça, c'est la vie de tous les jours. Mais elle s'est pas démontée ou il s'est pas démonté et puis vraiment, il est reparti sur sa plaidoirie. Au contraire, ça peut vraiment aussi se dire, ah, ça, c'est bien.
Et on n'a pas besoin d'enregistrer et puis de passer une cassette à notre place en faisant exprès de parler.
Alors du
c'est
coup,
de la triche.
Dans l'émotion, ça serait un peu moins sympa parce que c'est vrai que
c'est
ce qu'on leur dit, ça passe par le contact visuel et c'est pour ça qu'on leur demande de pas trop lire. Donc c'est quand même mieux si on peut avoir un corps devant nous, c'est plus sympa.
J'ai vu que vous avez mis une vidéo donc de la Ligue des droits de l'homme justement sur un concours plaidoirie que vous aviez fait l'année dernière. Mm-hmm. Et donc j'étais bluffé parce que ils ont qu'une note, quoi, ils sont devant vous comme ça.
Ils sont impressionnants.
Ah ouais. En plus ils sont filmés devant. Ouais. Jury, donc double pression. Hein.
Et ils doivent se souvenir de leur texte. Et en général, ils le savent parce que, comme Salomé vous a dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Ils ont travaillé des mois dessus. C'est leur mot, en fait, aussi. Donc déjà, c'est aussi plus facile. C'est pas un texte comme ça qui sort de nulle part.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose qui vivent. Et puis, si le combat est vraiment... tient aux tripes, la timidité a duré les deux premières secondes et puis après, on est porté par notre message,
c'est parti,
en fait.
Ouais. Et ça t'a aidé, Salomé, pour passer le bac?
Ah oui, complètement.
Ouais. Le fait d'avoir l'opportunité d'avoir eu l'oralité avant, ça t'a aidé pour l'épreuve du bac?
Franchement, je regrette pas du tout. Moi qui suis une grande timide de base, c'est vrai qu'au début, quand on nous a dit qu'on allait faire le concours des plaidoiries cette année, je me disais, moi, je ne voudrais pas passer. Enfin, je ne voudrais pas être finaliste parce que je serais trop timide, je serais incapable de le faire. Et plus le temps passait et plus Bah, j'étais vraiment dans mon travail. Enfin, j'étais fière de ce qu'on faisait avec ma camarade. Et je me suis dit, bon, allez, on se lance. Et franchement, j'étais à l'aise. Enfin, j'étais pas stressée comme j'ai pu être stressée les autres fois. Et encore plus le jour de la finale, du coup, quand on a été sélectionnés, on est passé donc devant le jury, devant des personnes et tout ça. Et franchement, je me suis étonnée moi-même parce que j'ai eu aucun stress. Enfin, je me sentais pas stressée.
Ah
alors
ouais,
que...
donc un travail.
Ah bah oui.
Grâce à votre travail, Lucie.
Ah oui, non, mais complètement. En fait, je pense que le point le plus important, c'est d'être vraiment investi et de croire en ce qu'on défend. Mmh. Parce que si on n'y croit pas et qu'on prend un droit comme ça,
ça va se ressentir,
exactement. Mmh. Et voilà, ça ne sert à rien. Il faut vraiment quelque chose qui nous touche. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à le faire. Je me suis vraiment mis dedans. Je me suis vraiment mis à la place des personnes qui ont pu vivre ça. Et franchement, ça m'a vraiment aidée complètement. Et après, pour l'oral, du coup... En fin d'année, oui. Là, pour le coup, j'étais étonnée moi-même.
Donc ça, c'est un conseil que tu donnes donc aux oui. gens que tu rencontres, aux lycéens et lycéennes.
Je ne leur ai pas encore donné le conseil. Enfin, quelquefois, je leur dis d'être plus à l'aise à l'oral. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même leur dire, je leur dirais, je pense, que bah, moi-même, j'ai vécu ça. Et que moi-même, je suis quelqu'un d'hyper timide de base. Et que j'ai quand même réussi à faire ça. Je me suis forcée. Et au contraire, je regrette pas de m'être forcée parce que c'est que du positif pour plus tard, pour les études. Enfin, c'est les élèves n'y croient pas forcément parce que forcément il y a toujours le côté pas trop de confiance en soi, peur du jugement des autres. Moi-même je suis comme ça, mais en fait il faut faire abstraction de tout ça et il faut juste penser à après et penser à ce que ça peut apporter et que c'est vraiment un exercice génial. Mais ils se rendent pas forcément compte, mais pourtant c'est hyper important pour la suite, vraiment.
Et en plus, tu es à l'aise devant le micro maintenant, incroyable. Alors qu'au début de l'émission, ouais. elle disait « Oh là là, voilà. je ne sais pas si j'y vais ». Et en fin de compte, tu te débrouilles super bien.
Je le savais. Voilà. Mais juste pour rebondir, c'est vrai qu'au début, notre objectif premier, on ne visualisait pas forcément déjà, nous aussi, au tout début, autant d'impact. Et on l'a vu avec l'expérience, vraiment très naïvement, si je peux dire, l'objectif premier et principal, ça reste celui-là, hein, mais c'était peut-être l'objectif unique qu'on s'était donné, c'était de sensibiliser les jeunes aux droits de l'homme, déjà. Oui. Mmh. Et puis, eux, les faire travailler pour avoir du fond. Et en fait, progressivement, avec les années, on s'est rendu compte que ça avait plusieurs impacts autres et du coup, très valorisants et intéressants. C'était que, justement, des élèves hyper timides, mais des fois... timide, maladif, sont passés à l'oral. Alors, c'était encore timide, mais c'était déjà un exploit qu'ils puissent parler à l'oral.
Oui.
L'ont fait. Des fois, c'est des bons élèves qui vont être voilà, plutôt à pas trop parler en classe, à écouter, à être studieux, à être bon à l'écrit. Donc, ça leur a fait du bien. Mais aussi, de l'autre côté, des élèves, des fois un peu en décrochage scolaire, moins bons, à qui le format classique de l'école ne correspond pas totalement aujourd'hui, ont pu trouver... un moyen de s'exprimer par ce biais-là et être des fois aussi hyper impressionnant. Et ce qui était intéressant, c'était d'entendre les profs être surpris de leurs élèves en disant « je ne le connaissais pas comme ça ».
Oui, ils découvrent un autre élève. Alors,
je ne le voyais pas comme ça. Et d'accord. Honnêtement, je ne lui pensais peut-être pas autant de capacité à faire quelque chose, à s'impliquer et tout. Mais là, il est parti sur quelque chose qui le tenait à cœur. Et donc, il a pu s'exprimer aussi autrement, ce qui montre qu'en effet, à l'école, c'est quand même important de se poser des questions sur comment on peut répondre aussi aux besoins des élèves et qu'en effet, des fois, les cours classiques, ça ne correspond pas toujours aux capacités de tel ou tel élève. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on est nul
ouais.
et qu'on n'a pas de compétences.
Et voilà, donc ça ouvre la porte à
c'est
plein
valorisant.
De choses.
Ouais. Ouais.
Et est-ce qu'il y a des sujets qui t'ont surpris, Lucie, dans ce que tu as écouté
Oui, alors surpris plutôt dans des fois des thématiques où même nous, on n'est pas forcément toujours bien au courant de cette belle diversité. Là, ce matin, par exemple, on avait un jeune homme sur les minorités religieuses, notamment les chrétiens, au Pakistan. On n'avait pas encore vraiment eu ce sujet-là sur le Pakistan. Une année, et d'ailleurs, ils ont gagné parce que je pense que ça a impacté le jury, le contraste. On a eu des jeunes qui ont fait sur la condition des personnes âgées en EHPAD. Donc, c'était intéressant que des jeunes se mobilisent aussi pour les gens du troisième âge.
Surtout quand c'est un sujet qui est d'actualité.
Et en plus, ils l'ont fait avant.
Eh ben,
donc, ils l'ont fait avant que
ils
sorte...
Ils ont bien senti le coup, alors. Ouais.
ouais, que sorte tout ça. Donc, c'est vrai que c'était... Du coup, cette année, il y a d'autres jeunes qui l'ont fait aussi. Ils se mobilisent. Quand ils se mobilisent, c'est intéressant sur le réchauffement climatique, l'environnement. En fait, tout ce qui peut... Moi, j'aime bien tout ce qui peut montrer à certaines personnes que, bah, vous voyez, en fait, les jeunes sont vachement plus au courant que vous pensez bien de ce qui se passe en France ou dans le monde. Parce que des fois, là, les Ouïghours, on en parle un peu. Mais il y a des jeunes qui commençaient à en parler il y a 2-3 ans quand personne n'en parlait. Qui vont parler des Rohingyas, qui vont parler de la faim dans le monde en Éthiopie, des sujets dont on ne parle pas beaucoup. Donc, ils ont vraiment fait l'effort d'aller chercher quelque chose qui a pu être...
Ils s'intéressent à l'actualité. Voilà.
Oui, même international, géopolitique, parce que des fois, on a des sujets vraiment très politiques sur l'impact des firmes multinationales, l'esclavage moderne, la rentabilité d'aujourd'hui, l'esclavage alors qu'il est censé être aboli dans le monde. Donc, c'est très fin, c'est très pointu. Et des fois, il y a une écriture, une plume vraiment magnifique, et on est scotché. Et honnêtement, je suis plutôt de nature émotive et sensible, hein. Je suis empathique, sinon on fait pas ce genre de travail aussi, de toute façon. Mais il y a vraiment de nombreuses plaidoiries qui m'ont mis les larmes aux yeux, et des fois on se cachait et la larme coulait un petit peu quand même. Donc il y a vraiment des très belles plaidoiries, et puis des fois on s'en rend compte, mais des fois on le sait après, des choses qui ont été vécues personnellement par les jeunes.
Ah oui, donc
et je trouve que depuis le Covid, il y a beaucoup plus de jeunes qui s'expriment sur du vécu, qui osent l'assumer. C'est brutal, des fois, c'est dur. Une jeune fille qui dit qu'elle a été violentée par son père, elles ont vu leur mère se faire battre, elles ont été violées.
Très sensible.
Où ils ont vécu du harcèlement scolaire et ils ont tenté de se suicider. Donc je pense qu'il faut... Par contre, je suis vraiment vigilante, il faut vraiment les suivre et les accompagner quand dans cette démarche.
Quand tu as des alertes comme ça qui sont...
Voilà, mais jusqu'à là, ça a été plutôt un succès, un exutoire, et ça leur a fait du bien. Donc, tant mieux. Mais nous, des fois, c'est vrai que derrière, il faut être armé et outillé, parce que c'est hyper violent quand elles vous font au début leur truc, leur petit speech, et puis qu'elles te disent « Bah, en fait, cette jeune fille, c'était moi ». Donc,
est-ce qu'il y a un règlement qui interdit certains sujets ou pas? Est-ce que vous limitez?
Non, tant que ça reste sur le respect des droits de l'homme. Alors, voilà, on ne va pas être négationniste, on ne va pas faire l'apologie de la haine, de la guerre.
Bien sûr. Oui.
Mais non, en général, ils jouent plutôt le jeu du respect de la non-violence. Oui. Non.
C'est bien, ils savent, ils connaissent leurs limites et ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire.
Ils comprennent très bien ce que veulent dire défense des droits de l'homme. Il ne faut pas se voiler la face.
Donc, il y a des belles surprises. Donc, est-ce que c'est public le 5 mai? Est-ce que les gens peuvent assister?
Oui, on est en train de finaliser une affiche qu'on va communiquer, qu'on va mettre sur notre Facebook aussi de Compiègne-Noyon, sur la page du concours des plaidoiries Hauts-de-France, qu'on va transmettre à la municipalité qui devrait aussi communiquer dessus, je pense. Donc, comme ça, les citoyens de Crépy seront au courant et pourront en effet venir à cette finale du 5 mai qui commencera à 15h30.
Donc Salomé, ça c'est ton boulot alors, la com, donc t'as une grosse charge de travail là.
Oui, bah les affiches c'est pas moi, c'est plus une professionnelle parce que je connais pas encore trop, mais je commence petit à petit à faire des petits travaux de communication, et ça me plaît vraiment.
Et puis surtout on va transmettre aux journalistes, parce que le but c'est qu'on puisse avoir des journalistes qui puissent venir faire un petit article et relayer l'événement et mettre en valeur ces jeunes, plus que nous d'ailleurs, mais on espère.
Et inviter la radio, nous on viendra
bien sûr, avec
à ce
plaisir.
Concours de plaidoirie, prendre des extraits et pourquoi pas faire des plaidoiries à l'antenne.
Avec plaisir.
Ça serait un top.
Je pense qu'ils seraient ravis, les élèves aussi, de venir pouvoir plaider à la radio.
On pourrait inviter les finalistes, pourquoi pas.
Tout à fait.
Et la personne qui représenterait Crépy sur le département et peut-être la région. Et après, la France.
Peut-être.
Voilà. Est-ce que c'est des initiatives qu'il y a dans d'autres pays, ce genre de choses? Parce que la Ligue des droits de l'homme, vous n'êtes pas que dans la France, vous êtes un peu autre part aussi.
Oui, on est ailleurs. Alors, le concours d'éloquence, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup depuis quelques moments. Donc, oui, après, je ne pourrais pas vous dire avec exactitude dans quel pays. On essaye déjà développer dans les Hauts-de-France. Ça se fait beaucoup aussi en Normandie. Puis, il y a des sections après, parce qu'on avait pu en parler au Congrès national. Et moi, j'avais pu en parler sur scène avec justement aussi un jeune qui avait fait les plaidoiries. Et ça avait vraiment impacté les ligueurs de voir aussi que des jeunes se mobilisaient. Parce qu'on est dans le cliché du milieu associatif qui est plutôt vieillissant, hein, forcément, même à la Ligue. Même si au sein de notre section, c'est plutôt assez diversifié. On a à peu près tout âge. Donc ça, c'est vrai que c'est une force de notre section à Compiègne-Noyon. Mais quand on avait parlé au niveau national, ça a donné envie. Donc, en région parisienne, j'avais eu des contacts en Corse, en Bretagne, vers Lyon, vers Marseille. Donc, petit à petit, ça va faire son chemin et je pense qu'on arrivera à faire quelque chose de national dans les années à venir.
Oui, puis en plus, si vous avez des partenaires comme les villes, là, j'ai vu que la Compiègne, vous aviez quand même député, vous aviez quand même l'académie qui était représentée, la mairie, donc il y avait pas mal de gens qui vous suivent.
Oui.
Donc à Crépy, j'ai bien compris, il y a la communauté de communes qui vous soutient.
La mairie.
Donc, la mairie qui vous soutient. Donc le lycée Monet.
Oui.
Donc voilà, c'est ça qui va faire
c'est
aussi.
Le réseau
qui va,
ouais, c'est le réseau qui va et c'est le soutien aussi. En effet, on ne peut pas faire... c'est un projet qui se passe dans une ville. Ça nous semble fondamental déjà de venir expliquer le projet aux municipalités comme de com, et puis d'avoir leur soutien. Et ce sont en général des projets qui les convainquent et qui leur plaisent. Donc ils seront à la finale et ils pourront voir aussi la qualité. Et je pense du coup qu'ils renouvelleront leur soutien pour l'année prochaine parce qu'ils vont voir vraiment l'utilité du projet et l'impact que ça a eu en espérant le faire grandir et peut-être toucher les collèges de Crépy aussi. Et l'étendre progressivement.
Et voilà, et élargir à d'autres classes. Mais vous aurez plus assez de bénévoles s'il y a trop de monde qui
participe.
C'est
pour ça que je relance l'appel aux bénévolat.
Allez-y.
On cherche des bénévoles. La section est sur Compiègne-Noyon, mais en effet, ça pourrait être des gens de Crépy qui interviendraient quand on va au lycée de Crépy et qui pourraient nous accompagner en classe et gérer des animations, des ateliers avec les jeunes et donner des conseils. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément de grandes connaissances au début, juste un peu de culture et s'intéresser à ce qui se passe. Et puis après, on accompagne au début. Et puis après, quand on est prêt, on peut faire les choses.
C'est quelques heures, quoi, c'est ça, à peu
oui,
près.
Oui, bien sûr.
C'est pas les journées complètes.
Non.
D'accord.
Pas du tout.
Alors, Salomé, je te donne une mission, là. Tu vas nous redonner les dates de finale qu'il y aura sur Crépy-en-Valois, le lieu et les horaires, s'il te plaît.
Ok. Alors, la finale à Crépy-en-Valois, ce sera le 5 mai. Donc il y aura trois finalistes des deux classes, donc en tout six finalistes, et ce sera à 15h30.
Donc le jeudi 5 mai, et donc on aura six finalistes, donc six plaidoiries à écouter.
C'est ça.
Exactement.
Bravo.
Et le meilleur se retrouvera à la finale départementale et il viendra plaider à la radio. Du coup, c'est convenu. Et le deal est fait.
Le rendez-vous est pris. Voilà. Des infos sur la Ligue des droits de l'homme. Comment vous contacter, vous rencontrer, vous aider, les besoins?
Alors, par mail, compiègne-noyon@ldh-6france.org. Comme je l'ai dit, ça fonctionne très bien. On est beaucoup sur les réseaux. Donc, on a une page Instagram et puis une page Facebook. LDH, Compiègne-Noyon, tout simplement, ou concours des plaidoiries Hauts-de-France. Par n'importe quel biais, vous nous retrouvez et on répond en général assez rapidement. Donc voilà, pour nous suivre, pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.
Et donc, besoin de bénévoles,
oui.
Des dons, pourquoi pas, enfin bref, adhérer, comment on fait pour adhérer donc,
C'est très simple, soit en nous contactant et on vous envoie un bulletin d'adhésion, ou soit sur le site du National, il y a le bulletin d'adhésion qui existe. On peut même adhérer directement en ligne, payer en carte bleue, et c'est un virement tous les mois, et on met la somme qu'on peut en fonction de nos moyens et de notre envie.
Très bien.
Voilà.
On a été complet, mesdames ?
Je crois bien, oui.
C'est bon ?
Parfait.
Eh bien, on va clôturer cette émission.
Merci à vous.
Lucie, merci Salomé.
Merci Frédéric.
Voilà,
merci.
Donc on va suivre ce concours de plaidoirie qui a lieu donc sur Crépy-en-Valois cette année. Première année à Crépy-en-Valois, donc au lycée Jean Monnet. Et on ira à la finale le 5 mai, le jeudi 5 mai.
C'est ça, on dit à 15h30.
Voilà, merci à vous deux.
Merci. Au revoir,
voilà.
À bientôt.
C'était Frédéric qui vous dit bonne écoute sur RVM 93.7. Rediffusion de l'émission le dimanche à 16h et le mardi à 10h. Et après, en podcast. Au revoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.